Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la deuxième partie de la Grande Table, nous poursuivons notre analyse des fractures françaises et mondiales avec la question des inégalités. Alors que la richesse mondiale augmente, les inégalités de revenus se creusent au sein des pays. Pourquoi faut-il y remédier? Quel lien social dans un monde inégal? Nous en parlerons avec nos invités, les économistes Gaël Giraud et James Galbraith, qui seront avec nous à partir de 12h55. Mais d'abord, focus sur les droits humains. Pour les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Musée de l'Homme a fait appel à l'auteur des séries Exode et Genesis pour exposer jusqu'à l'été prochain ses déclarations. Connu pour ses photos en noir et blanc, son engagement écologique et sa fibre humaniste, membre de l'Académie des Beaux-Arts, le photographe franco-brésilien Sebastião Salgado est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
À l'occasion des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Musée de l'Homme expose vos déclarations dans le cadre de sa saison En droit. Une trentaine d'images en grand format réalisées dans une vingtaine de pays, de l'Afghanistan à l'Angola, de Hong Kong jusqu'à l'Indonésie, du Kenya en passant par le Mozambique jusqu'au Soudan et la Tanzanie. Bonjour Sébastien Salgado.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Des photographies qui illustrent certains des articles de la Déclaration. Droit au travail, droit à l'asile, liberté de penser. Quel est le droit qui vous est le plus cher aujourd'hui?
Des droits à la vie, des droits à la dignité. Ça, je trouve très important. Et je crois que j'ai passé toute ma vie, quand je photographiais les êtres humains, à essayer de montrer leur dignité. Beaucoup de fois, les gens ont critiqué beaucoup mes photos en disant que je faisais une certaine esthétisation de la misère. Et ça, jamais pas trop me touché ça. Parce que tous les gens que j'ai photographiés, j'ai essayé de les avoir dignes. Et je crois que la dignité fait que la photographie soit belle. Parce que les gens sont pleins en face des photographes. N'est-ce pas? Quand on respecte ces côtés, c'est les côtés pour moi les plus importants. Et pour moi, c'était tellement important de montrer à tous les autres, parce que finalement, la photographie, ce n'est qu'un miroir de notre société, de montrer cette dignité. Elle est tellement importante. Même si on souffre, même si on est sans aucun ressource, mais dès qu'on a notre dignité, on a beaucoup. Dès qu'on a notre dignité, on est dans un moment de transition, d'un moment d'un équilibre vers l'autre. On ne peut pas la perdre.
Est-ce qu'il y a des images que vous vous êtes refusé de faire ou de publier? Parce que justement, ça ne répondait pas à ce critère de la dignité que vous aviez fixé à vous-même et à vos photographies.
Beaucoup de fois, je n'ai pas photographié. Parce que je trouve qu'on photographie l'être humain, si ce n'est pas pour protéger sa dignité, je crois que la photo ne doit pas être faite. Pour moi, c'est deux choses très importantes dans la vie. C'est la dignité et l'idée des communautés. Cette solidarité qui génère la communauté, ça c'est une grande protection de la dignité. Et donc c'est là que j'ai essayé de faire mes photos dans tous les moments que j'ai photographié l'être humain.
On pourrait évoquer l'une des photos qui est exposée en ce moment au Musée de l'Homme, qui expose donc vos déclarations. Cette photo prise dans un centre de réhabilitation qui s'occupe des enfants handicapés par la polio. Là, on y voit des jeunes filles, principalement, avec des jambes. Ce sont quoi? Ce sont des jambes en bois?
Ce sont des jambes en bois, ce sont des prothèses. Et c'est que je vois beaucoup dans cette image. Cette image, pour moi, elle est divisée en deux portions. La portion haute de cette photo, c'est des visages des jeunes, des gamins qui sourient, qui sont comme tous les gamins heureux du monde. Et quand on regarde la partie du bas de la photo, sont absolument tous handicapés par la polio. La polio, c'est un fléau énorme qui a touché toute la planète. Aujourd'hui, on est en train de la finir. Cette photographie est sortie d'un livre qu'on a fait avec les Nations Unies qui s'appelle « La fin de la poliomyélite ». Et j'ai venu dans ces endroits, dans ces centres, en Inde, parce qu'il y en a encore un peu de poliomyélite en Inde. Pas beaucoup, mais un peu. Mais jusqu'il y a quelques années, on avait des centaines de milliers de cas de poliomyélite en Inde. On voit que ce sont des enfants jeunes, donc ils indiquent une poliomyélite très récente.
Depuis les années 70, Sebastião Salgado, et vos premières séries dans les mines d'or au Brésil, vous avez montré la sécheresse au Sahel, les famines, les paysans sans terre, l'esclavage. Est-ce que la condition humaine s'est améliorée pour vous aujourd'hui?
Non, elle n'a pas amélioré. La condition humaine, c'est assez difficile. On a vu très récemment, n'est-ce pas, et ce qui s'est passé avec toutes ces populations qui viennent de l'Afrique et qui traversent la Méditerranée, toute cette population atteinte par la violence en Moyen-Orient, principalement en Syrie, en Irak. Et pour la première fois, ces populations ont vraiment touché l'Europe et on a vu de près qu'est-ce que c'est cette souffrance. La seule différence, c'est que cette époque, ça passait de loin de chez nous. Maintenant, c'est arrivé chez nous. On voit de près. Mais c'est à peu près la même chose. C'est pour ça que faire cette exposition sur la charte des droits de l'homme, il faut le faire. Il faut que les jeunes viennent le voir. C'est pas seulement mes photographies, c'est une série d'expositions qui vont ensemble, c'est une commémoration de cette charte. Et il faut qu'on discute, il faut qu'on parle. Les droits de l'homme, ce n'est pas une loi. Les droits de l'homme n'étaient pas votés par les populations des pays. C'est une référence, une grande référence, possiblement la plus importante référence pour l'ensemble d'êtres humains, pour le respect de la communauté des êtres humains, c'est cette charte des droits humains.
Il parle de vos photos comme des trésors d'humanité. Wim Wenders, le réalisateur du Sel de la Terre, prit un certain regard, prix du jury au Festival de Cannes en 2014. Réécoutons-le.
J'ai découvert cette photo dans une galerie il y a plus de 20 ans. Je ne savais pas qui l'avait prise. Je me suis dit que ce devait être à la fois un grand photographe et un aventurier. Il y avait un tampon au dos et une signature, Sebastião Salgado. J'ai acheté le tirage. Le galeriste a sorti d'un tiroir d'autres images du même photographe. Ce que j'ai vu m'a bouleversé. Surtout cette image-là. Le portrait d'une femme touareg aveugle. Elle m'émeut toujours aux larmes, bien que je la vois presque tous les jours. Elle est accrochée au-dessus de mon bureau depuis. Je savais déjà une chose de ce Sebastião Salgado. Il aimait vraiment les êtres humains. Pour moi, c'était très important. Après tout, les hommes sont le sel de la terre. On a fini par se rencontrer et parler de sa vie, de son œuvre et d'où tout ça lui venait.
Les hommes sont le sel de la terre, dit Wim Wenders. Et vous ne dites pas autre chose, Sebastião Salgado. Le film Le sel de la terre sera diffusé dans l'auditorium du Musée de l'Homme. Ce sera le 10 février prochain. Je termine sur les mots de Wim Wenders et je les lui vole. D'où tout ça lui venait? Cette fibre humaniste, d'où vous vient-elle?
Je suis né dans un pays agricole. Je suis né à la campagne. Le Brésil. De ma naissance, il avait plus de 92% de la population rurale. Et donc, j'ai eu une opportunité immense de faire partie de cette première grande vague des gens de la campagne qui partaient en ville pour étudier. Avec tous les conflits, avec toutes les contradictions qui peuvent générer une urbanisation massive, accélérée. C'est que vous avez vécu en 500 ans pour vous urbaniser ici en France. On n'a pas passé 50 ans pour faire la même chose. Aujourd'hui, plus de 92% de la population du Brésil, elle est urbaine. Et donc, j'ai vécu dans ces conflits sociaux, j'ai vécu dans cette dispute pour la vie. Et j'ai fait mes études d'économie, j'ai devenu un économiste. L'économie que j'ai faite, ce n'était pas l'économie d'entreprise. C'était l'économie politique, les comptes nationaux, les finances publiques, enfin, l'économie qui touchait toute la population. J'ai pu travailler comme économiste, j'ai travaillé en Afrique, on faisait des missions le premier grand projet de financement de culture d'été au Rwanda. C'est moi qui ai fait l'analyse des retours économiques de tous ces projets pour l'Organisation internationale des cafés. Et donc, quand je venais à la photographie, je venais d'une grande expérience de l'être humain. Même si j'étais jeune, j'avais vécu là-dedans depuis le début. Et quand j'ai commencé à faire des photos, mes photos devaient aller dans cette direction. Elles ne pouvaient pas aller dans une autre direction. J'essayais au début de faire des nus, de faire des sports, de faire des paysages.
Ça ne marchait pas.
C'est pas que ça ne marchait pas. Quand je me trouvais vraiment en train de faire des photos, j'étais en plein dans les photos sociales. Et donc, c'était ça. Quelquefois, les gens me disent que ma photographie, c'est une photographie d'un ex-économiste, une photographie d'un sociologue, d'un anthropologue, d'un reporter.
Vous leur répondez quoi ?
Ce n'est pas du tout ça. Ma photographie, c'est ma vie. C'est ma façon de vivre. C'est pas plus que ça.
Et c'est le médium que vous avez choisi pour tisser un dialogue aussi avec la société qui vous entoure. Il est comme vous, ou il était comme vous, un inconditionnel du noir et blanc. Je vous propose de réécouter la voix du photographe sud-africain David Goldblatt.
For me, photography is a means.
À mes yeux, la photo constitue un moyen de parler du monde dans lequel je vis et des gens autour desquels je vis, dans un dialogue entre moi et moi-même, et entre moi et mes compatriotes. Si vous voulez, je me considère comme un observateur et un critique de la société dans laquelle je vis.
David Goldblatt, vous l'avez rencontré ?
Vous êtes croisé ? Oui, absolument. J'ai rencontré David et on fait partie de ces mêmes groupes de photographes, n'est-ce pas, qui on travaille toujours avec nos sociétés.
Un dialogue entre moi et moi-même, un dialogue entre moi et mes compatriotes, un regard observateur et critique. Vous défendez la dimension informative et l'utilité sociale humaine de la photographie. Vous avez traversé plus de 130 pays tout au long de votre vie de photographe. Qu'avez-vous appris de l'espèce humaine au cours du voyage, au cours de ces voyages et au fil de vos rencontres ?
On est un animal grégaire. On est fait pour vivre ensemble. Quand on regarde l'histoire de l'homme sapiens, au moment que l'histoire a devenu histoire vraiment, c'est l'histoire des communautés. C'est l'histoire d'une certaine solidarité. Et donc, ça c'est très important. Il y a certaines valeurs qu'il faut respecter. C'est comme vivre les uns avec les autres. Et quelquefois, les gens ont l'impression, parce qu'ils vivent dans une société riche, développée, comme la France, par exemple, que les autres sont des gens primitifs. Ce n'est pas vrai. Je suis en train de faire un travail maintenant avec certaines tribus amazoniennes. Depuis un certain temps, je photographie l'Amazonie. J'ai rencontré l'autre jour une tribu qui ne faisait pas même des années qu'elle a eu les premiers contacts avec le monde occidental. Vous savez, en Amazonie, on a plus d'une centaine de groupes qui n'ont jamais été contactés. Et donc, je rencontre ces Indiens, je dis, ils vont être très différents de moi. Comment je fais pour faire un contact avec eux? Mais moins d'une heure, j'étais complètement intégré. Parce que finalement, quand je viens photographier une famille de lions, une famille de gorilles, là, il y en a une différence dans ce système logique et comportemental. Mais quand je viens photographier l'être humain, on est absolument les mêmes. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas d'être primitif. Vous savez, ils étaient aussi malins que les gens que j'ai rencontrés à Paris, que j'ai rencontrés à New York. Ces Indiens qui étaient complètement isolés de la société occidentale à moins de 2 années. Ils savaient tout, ils connaissaient tout. Et on a fait une relation tellement immense, tellement rapide. Vous savez, j'étais chez moi. En quelques heures, j'étais chez moi. Et donc, ça, cette grande particularité de l'être humain, cette capacité communautaire, que c'est le point le plus fort pour moi de notre espèce.
Et en même temps, des mines d'or au Brésil, jusqu'au puits de pétrole au Koweït, vous avez vu, constaté de vos yeux vus, cette exploitation de l'homme par l'homme, cette exploitation aussi de la planète et des ressources par l'homme. Hein ? Et comment expliquer que l'homme ait toujours ce besoin d'aller poser son empreinte, laisser sa trace sur la nature qui l'entoure ?
Vous savez, sur cette mine d'or, c'était un peu différent. Et quand on regarde les images, c'est vraiment les images du début du temps. C'est les mines des rois Salomon, c'est le Klondike au Canada, au début, à la fin du 19e. Les gens, ils n'étaient pas obligés d'être là. Il avait un appel plus grand, qu'on ne sait pas pourquoi il appelle l'homme, qui s'appelle l'or. Vous savez, tous étaient là pour l'or. Et donc, il avait une façon de travailler dans cette mine, que c'était une façon très populaire, c'était une loterie. Chacun qui travaillait avait le droit d'avoir un sac. Et dans ce sac, pouvoir avoir quelques grammes, avoir quelques kilos d'or. Et à ce moment, les gens avaient son indépendance. Et tout le monde était là pour ça. Personne n'était obligé d'être là. S'ils étaient esclaves, ils étaient esclaves de l'or. Et on a un livre qui sortira là-dessus.
Vous connaissez le projet de la Montagne d'Or. C'est un projet en Guyane. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Amandine Mavaloum Galima, qui vit là-bas et qui est la porte-parole de la jeunesse autochtone de Guyane.
Depuis nos ancêtres et jusqu'à présent, on a su protéger cette richesse. Et là, les industriels viennent pour la menacer. Ce sera la plus grosse mine, que ce soit en France hexagonale ou encore moins en Guyane. On n'a jamais vu ça. Au niveau de la profondeur, la tour Eiffel, si on la met à l'intérieur, elle ne se voit plus. Déjà, en termes d'emploi, ça ne va rien changer pour la Guyane. En termes d'environnement, ce sera un vrai désastre. Dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais entendu qu'une mine est propre. Elle a toujours causé de la pollution tout autour. Il y en a beaucoup qui vivent de la chasse et de la pêche, plus de la plantation. Ceux qui ne peuvent même plus utiliser la terre, ils ne peuvent plus planter et cultiver la terre. Elle est complètement souillée par les produits chimiques rejetés. Pour la pêche, c'est pareil. Le mercure est partout dans le poisson, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus pêcher. C'est grâce à la Guyane que la France est leader au niveau biodiversité. Et malgré ça, elle permet ce genre de projet. Elle n'aurait jamais permis ce genre de projet dans l'Hexagone. L'Amazonie reste le dernier poumon de la Terre. Si on continue à détruire, on court à notre perte. Nous sommes les gardiens de la nature et on est là pour la protéger. Non pas le contraire.
L'appel de cette gardienne autour de la Montagne d'Or, ce projet d'exploitation minière d'une concession aurifère de l'ouest de la Guyane, Sébastien Salgado. C'est vraiment la question. Jusqu'où exploite-t-on? Jusqu'où protège-t-on? Vous avez traversé des forêts tropicales, des déserts, des glaciers, des régions polaires. C'était vraiment au cœur, notamment, de votre grande œuvre Genesis. Un livre de photos était paru en 2013. Une soixantaine de photos sont d'ailleurs actuellement encore exposées à la fondation Good Planet à Paris. Et à voir ce monde où l'homme ne protège plus la nature qui l'environne, mais en tire profit sans se poser la question des dégâts que ça peut provoquer. C'est aussi des questions qui sont au cœur de la COP24 qui a commencé en Pologne. Ce monde des origines, ces paradis originels, est-ce qu'il vous semble menacé aujourd'hui ?
Très menacé. J'apprécie beaucoup l'observation que je viens d'écouter sur la Guyane, sur cette exploitation aurifère en Guyane. Il n'y a pas de raison de la faire. Et j'ai travaillé sur une ancienne mine à Saint-Élie, en Guyane, ça fait des années. Et la France, sagement, avait arrêté cette exploitation. On n'a pas besoin de ça en France. Cette forêt qui est là sur place, elle vaut 1000 fois plus que l'or qu'on puisse exploiter de là-dedans. Parce que ce n'est pas seulement la destruction physique des arbres qu'on va le faire. On va empoisonner ces cours d'eau. Vous savez, pour exploiter l'or, il faut qu'on utilise le mercure. Et le mercure, il se dissémine assez vite dans les eaux et ça crée une pollution immense. C'est vraiment de la folie, un pays richissime comme la France, aller exploiter de l'or en Guyane, quand la forêt qu'elle va détruire a beaucoup plus de valeur que tout ça. On a une menace énorme. Vous savez, la forêt amazonienne, parce qu'on parle de la forêt amazonienne, la planète dépend de cette forêt. Tous les courants d'humidité qui circulent dans la planète. Aujourd'hui, basculement les origines là-bas. Vous savez, le système des pluies. Au moment qu'on va détruire cette grande forêt, qui fait quand même toute la surface de 9 pays amazoniens, parce qu'on a 9 pays qui possèdent l'Amazonie, le Brésil possède la grande majorité, à peu près 65% de l'Amazonie. Mais au moment qu'on va la détruire, ça va être très compliqué. Au Brésil, on a déjà détruit presque 20% de la forêt amazonienne. Et aujourd'hui, avec le nouveau président élu qui promet ouvrir l'Amazonie au agro-business, on a un risque immense de la destruction. L'environnement, on ne le respecte pas. Vous savez, vous parlez de la COP 24 qui est en Pologne maintenant. On parle de la COP 21 qui a eu place ici en 2015.
Avec les accords de Paris.
Avec les accords de Paris. Mais vous savez, il y a un défaut dans toutes ces réunions. On n'a jamais amené la partie principale de ce débat, le monde paysan. Vous savez, la planète, elle n'est pas dans la capitale, elle n'est pas dans le monde urbain. Elle est à l'intérieur des pays. Et à l'intérieur des pays qui tient la planète, ce sont les paysans. Il faut les intégrer dans cette discussion. Il faut planter des arbres. Il faut qu'on trouve des fonds pour planter des arbres. Il n'y a pas, on n'a pas de fonds pour le carbone de la campagne. Et la seule machine capable de transformer le CO2, le dioxyde de carbone, en oxygène, ce sont les arbres, il n'y a pas une autre machine. Et donc, il faut planter des arbres. Il faut, en France même, on a tellement de terres qui ne sont plus exploitables, qui on pourrait transformer en forêt. On vit dans une pauvreté biologique immense en France. Même si on a une couverture de forêt très grande, ce n'est pas vraiment des forêts. C'est des monocultures d'arbres qui sont faites pour être coupées, qui sont faites pour être combustibles ou pour être des meubles. Mais ce n'est pas vraiment des forêts écologiquement équilibrées.
Mais ce ne sont pas vers ces paysans dont vous parlez que se tourne le nouveau président brésilien Jair Bolsonaro lorsqu'il dit « je tends la main vers celui qui récolte le caoutchouc dans la forêt d'Amazonie et celui qui plante les céréales dans le sud ». Lui qui dit aujourd'hui « il n'y a pas plusieurs Brésils, il n'y a qu'une nation démocratique ».
Écoute, qui a détruit le plus d'arbres ? Ce sont aussi les paysans. Ce sont ces paysans-là qui ont des énormes extensions, qui ont détruit la forêt pour planter le soja, pour planter l'herbe, pour faire l'élevage. Le Brésil est le premier producteur de viande bovine au monde, premier producteur de soja, premier producteur de café. Ça a devenu les grands pays agricoles au prix de l'abattage de la forêt. Mais on n'a plus besoin d'abattre plus de forêts. L'Amazonie, il faut qu'on la protège. Vous savez, si on tient ces arbres debout et qu'on récolte de ces arbres, tout ce qu'elles produisent, on peut fournir aujourd'hui pour toute la planète une grande partie de notre alimentation, une grande partie de nos médecines, une grande partie des produits pour l'industrie cosmétique. On peut avoir un grand retour, mais on ne pense qu'à l'économie prédatoire, l'abattre pour le soja et pour l'élevage.
Le Brésil qui avait accueilli le premier sommet de la Terre il y a un quart de siècle. Les temps ont changé, le pays vient de se retirer ou retirer sa candidature pour l'organisation de la COP 25 en novembre prochain. Nous verrons si les choses évoluent maintenant que cette nouvelle exécutive, cette nouvelle majorité est en place et comment elles vont évoluer. Vous avez photographié l'exode, vous le disiez, Sébastien Salgado, au Brésil, au Sahel, en Tanzanie, vous êtes passé partout. Et parmi les causes, il y en a une qui est amenée à se développer, celle du changement climatique. Vous avez photographié aussi déjà depuis longtemps ces déplacés du climat.
Oui, absolument.
Dont on pense toujours que c'est un mythe, mais vous avez pu le confirmer sur le terrain.
Énormément de toute cette population qui se déplace à cause des sécheresses, n'est-ce pas ? Elle vient, c'est des populations victimes d'un énorme accident environnemental, n'est-ce pas, provoqué par nous-mêmes. Et donc, je crois que c'est le moment qu'on puisse faire la correction. On travaille sur un projet environnemental au Brésil, on est en train de planter beaucoup d'arbres. C'est l'ancienne ferme de mes parents. On a déjà planté sur cette notre surface plus de 2 500 000 arbres de plus de 300 espèces différentes. Il faut qu'on fasse ça un peu partout au monde. On peut séquestrer notre carbone, on peut rééquilibrer les populations sur place, on peut refaire que la biodiversité participe de notre vie. Du contraire, ça va être très compliqué pour nous.
Vous dites que ce qui vous a sauvé, dans les moments où vous avez perdu espoir, et notamment après le génocide rwandais, c'était ce retour à la Terre, pas seulement à la matière, mais aussi à ses valeurs, que vous y avez gagné dans cette reconnexion. Pour terminer, Sébastien Salgado, je voulais vous faire écouter la voix d'un homme, celle d'Albert Camus. Vous êtes un témoin engagé. Êtes-vous aussi un photographe révolté ?
La révolte, comme tous les mouvements de l'esprit ou du cœur humain, c'est à la fois la pire et la meilleure des choses. Et il est tout à fait naturel qu'un écrivain qui s'intéresse aux passions de l'homme autant que de son intelligence essaie de donner à ses patients la plus grande efficacité, la plus grande utilité possible sur le plan de la vie la plus simple comme sur le plan de la vie sociale. Et j'ai essayé de tirer, en effet, de la révolte les éléments d'une attitude qui ne soit pas une attitude de pure destruction, de pur nihilisme, ce qui s'explique assez si on veut bien considérer que je ne m'intéresse pas au nihilisme contemporain par goût esthétique ou personnel, je m'y intéresse dans la mesure où il est possible de le dépasser.
L'auteur de L'Homme révolté, sorti en 1951, Albert Camus, Sébastien Salgado, vous, quelle révolte réhabilitez-vous aujourd'hui à travers votre vie et votre travail?
La révolte de la tentative d'un dialogue. Il faut qu'on s'organise malgré les présidents d'extrême droite élus au Brésil, malgré un président d'extrême droite aux États-Unis. Il faut qu'on organise un dialogue, qu'on se concentre sur l'essentiel, qu'on laisse les querelles, qu'on laisse les individualismes, qu'on laisse les égoïsmes de côté et qu'on pense sérieusement à la survie. On est en face d'un énorme danger d'extinction de notre espèce. Il faut qu'on pense ensemble, qu'on discute ensemble. On a des ressources, on a des technologies. Il faut qu'on ait cette conscience. C'est ça qui fait partie de ma préoccupation majeure qu'on pourrait appeler une révolte.
Sébastien Salgado, merci beaucoup. On vous retrouvera dans un peu plus d'un an quand vous aurez terminé ce long voyage en Amazonie à l'occasion d'une exposition qui aura lieu là encore au Musée de l'Homme, qui pour l'instant présente vos déclarations. C'est à voir jusqu'au 30 juin 2019 et c'est dans le cadre de cette saison En droit ouverte par le Musée de l'Homme à l'occasion des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Merci à vous.
Merci beaucoup.